Eh bien, vous avez reconnu le générique, il est 15h, c'est l'heure d'une mission des lecteurs sous les toits, c'est la rentrée. Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour. Alors, pour cette première émission de la saison, nous sommes aujourd'hui 6 autour de cette table. Que des dames. Françoise, Chantal, Nelly, Nathanaël, Claudine
et Sylvie.
Alors, cette première émission sera consacrée aux correspondances de Manosque, cet événement littéraire qui se déroule tous les ans au mois de septembre, donc qui s'est déroulé cette année du 24 au 28 septembre, et qui a réuni de nombreux auteurs de la rentrée littéraire pour des lectures croisées, des performances, des rencontres, des spectacles.
Comme d'habitude, le comité de lecture a organisé pendant ces 4 jours les apéros littéraires. Mais avant de vous parler plus particulièrement de ces apéros, nous allons vous parler en général du festival.
Alors, on aurait dû recevoir aujourd'hui Marie qui est la coordinatrice des correspondances, mais au dernier moment, elle n'a pas pu venir, donc voilà, on va faire sans elle, c'est pas grave, les correspondances, on connaît bien. Voilà, donc alors, les correspondances, en fait, Françoise, toi qui es au conseil d'administration des correspondances, qui est une lectrice de la médiathèque et du comité de lecture, mais aussi au comité d'administration des correspondances, peut-être que tu peux répondre à certaines questions. Qui sont les personnes responsables du festival ?
Alors, il y a une direction artistique, comme dans tous les festivals, qui est assurée par Olivier Choudançon. Olivier est le fondateur de ce festival et je crois que ça devait être la 16e édition cette année. Et depuis l'année dernière, Olivier a à ses côtés quelqu'un qui est directeur délégué, qui est Evelyne Pravidlo, qui était déjà dans l'équipe précédemment et qui travaille beaucoup avec lui. Evelyne vient régulièrement à Manosque. D'ailleurs, c'est elle qui fait la coordination entre la direction artistique et le travail de Marie, la coordinatrice. Et puis, il y a autour d'eux un ou deux, moi je ne connais que Arnaud Catherine, je dirais un peu lecteurs privilégiés, qui sont des conseillers artistiques qui appellent l'attention d'Olivier et d'Evelyne sur des auteurs et des livres.
La ville se trouve complètement transfigurée durant cette période, notamment donc par les scènes qui sont sur chaque grande place de Manosque, mais il y a aussi des écritoires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces écritoires ?
Alors, les écritoires, ce sont, j'ai envie de dire, de petites cabanes pour écrire. Ce sont des isoloirs, des espaces dessinés et construits spécialement à cet effet, et éphémères puisqu'ils disparaissent après les festivals, et qui permettent à une ou deux ou trois personnes de venir rédiger du courrier et l'envoyer gratuitement. Dans ces écritoires, on trouve du papier, des stylos billes, parfois des cartes postales, des enveloppes. On écrit ce qu'on veut à qui on veut. On le met dans des boîtes à lettres qui sont spécialement préparées pour ça. Et il me semble qu'il y a 13 ou 14 000 lettres qui sont écrites chaque année.
Cette année, il y en a eu 17 000. T'es en retard.
17 000. Alors, les écritoires sont de plusieurs types. Il y a des petits édifices qui sont construits par un plasticien qui s'appelle Monsieur Lautré, qui existe depuis plusieurs années dans différents lieux de la ville. Il y en a un sur la place Saint-Sauveur. Il y a le fameux dans les arbres sur la place de l'Hôtel de Ville. Il y en a toute une série un petit peu partout en ville. Et puis, et moi j'ai une grande préférence pour cela, il y a beaucoup et de plus en plus de magasins qui organisent dans leur boutique ou dans leur arrière-boutique comme des petits salons d'essayage dans les magasins de mode où on peut aller s'installer, discuter avec les gens et rédiger son propre courrier.
C'est d'ailleurs l'occasion de découvrir certains commerces qu'on croise habituellement, on passe devant, on pense pas y rentrer. Et ce jour-là, le commerçant a fait l'effort imaginatif aussi de prévoir son petit coin d'écriture. Et on découvre que ça fait quelques années qu'il est là et que c'est nous qui n'avons pas su ouvrir les yeux. Pour compléter ces écritoires, on a cette année un concours qui s'est passé entre toutes les écoles du département, qui ont fait le concours du plus bel écritoire. L'exposition de photos de ces écritoires et de celui qui avait gagné se trouvait à Carzou. Ça a tellement plu dans les écoles qu'ils ont décidé de recommencer cette année.
Donc les correspondances sont des auteurs, des professionnels, mais il y a également énormément de bénévoles. Quels sont leurs rôles ? Je crois que vous avez été, vous, pour beaucoup d'entre vous, bénévoles.
Alors, les bénévoles sont, comme leur nom l'indique, des personnes qui viennent, on dirait, donner un coup de main. Alors, moi, je peux dire, par exemple, ce que j'ai fait avec Alphonsine. Nous sommes partis un matin à 9h de Manosque, avec 4 cartons de plaquettes et une cinquantaine d'affiches dans la voiture, sans oublier notre pique-nique. Nous avons fait 200 kilomètres. Nous sommes allés de Manosque jusqu'à Digne, en passant d'un côté de la Durance le matin et de l'autre côté le soir, en nous arrêtant dans toutes les mairies, les centres sociaux, les médiathèques, les librairies, certains cafés, un peu cafés littéraires, et en déposant une affiche, deux affiches, quelques plaquettes, de temps en temps en discutant un peu avec les gens. D'ailleurs, nous en avons retrouvé un certain nombre dans les débats et notamment aux apéros littéraires, puisque bien sûr, comme nous sommes liseurs autant Alphonsine que moi, nous n'avons pas manqué de leur faire la promo pour les apéros littéraires. Donc ça, c'est un des travaux de bénévoles que je connais parce que je l'ai fait. Il y a aussi tout l'accueil du public dans les salles de spectacle, alors qu'il fait part de gens beaucoup plus jeunes que nous, qui doivent être plutôt de la génération étudiant. Et donc, ils sont des gens qui, bénévolement, viennent et aident le public à trouver sa place.
Alors, il ne faut pas oublier quand même que pour pouvoir les distribuer, des affiches, des plaquettes ou envoyer par poste, pour ceux qui sont un petit peu trop éparpillés, il a fallu avant qu'on plie tous ces papiers et qu'on les mette sous enveloppe. C'est aussi le bénévolat. Ça se fait au coup par coup, les gens qui en ont envie.
Alors, Claudine, il y a aussi, tu connais aussi bien d'autres bénévoles qui travaillent dans la bibliothèque pour tous.
Donc, la bibliothèque pour tous, qui est située sur la place du Docteur Joubert, pendant les correspondances, propose depuis plusieurs années de merveilleux jeux littéraires. Donc, ils ne peuvent pas recevoir énormément de monde à la fois, puisque ça se passe dehors et que quand il pleut, c'est un peu ennuyeux. Mais on peut aller chercher les jeux et les faire tranquillement dans un autre écritoire ou chez soi, comme on veut. Mais vraiment, c'est quelque chose de très, très construit, très préparé. Et sur les livres de cette année, bien sûr, à chaque fois, et sur les auteurs. Et vraiment, on se régale absolument à faire ces jeux. Après, elles font un petit recueil avec les meilleures réponses, donc les haïkus, les petits textes proposés sur toutes sortes de choses. Voilà, donc c'est extrêmement, extrêmement intéressant et très, très peu connu en fait.
Claudine, puisque tu as la parole, je crois que pendant les correspondances, il y a un jour plus particulièrement réservé à la jeunesse.
Oui, et si vous vous êtes promené dans Manos le vendredi, vous n'avez pas pu ne pas vous en apercevoir. Il y avait plusieurs centaines d'adolescents, puisque c'était proposé par Éclat de lire la journée qui lançait le prix littéraire. Tous les ans, à Éclat de lire, nous proposons en lecture une douzaine de livres, romans, BD, poésie, etc. Aux jeunes de troisième et seconde du département, donc Manosque et tout le département. Et nous avions cette année Corvézier et Ahmed Caloise, d'une part, qui ont présenté leurs œuvres aux ados. Et comme on avait vraiment très très peur qu'il y ait beaucoup 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 de monde, au dernier moment on a demandé à Marcelino Truong s'il voulait bien faire quelque chose sur la place de la mairie, et gentiment il a accepté. Donc il a fait une fresque qui a été vraiment très très belle et qui a eu beaucoup de succès. Et heureusement, les cars prévus de Marseille, d'Apt et de tout le département avaient trouvé à s'occuper dans les écritoires et dans les visites de Manosque, de Carzou, entre autres. Et donc tout s'est très bien passé, on n'a pas été submergés. L'après-midi, il y avait la battle. La battle, donc, c'est les jeunes ou les vieux, hein, parce que en fait, n'importe qui peut participer. Les jeunes préparent un livre qu'ils aiment, un texte, et ils le préparent de la façon qu'ils veulent. Donc, c'était le plus souvent cette année assez humoristique. Et donc, quelques-uns étaient sur la scène, mais d'autres étaient restés dans les gradins et répondaient d'une part à l'autre. Et nous avons eu un présentateur impeccable. Il a fait ça au pied levé, mais je crois qu'il reviendra l'année prochaine. Voilà. Donc, la battle et la journée des ados, ça a été vraiment une grande réussite. Voilà.
Voilà, et donc, parlons quand même de ce qui nous concerne le plus... Plus particulièrement, c'est-à-dire les apéros littéraires du comité de lecture. Mais avant de parler des apéros littéraires, il faudrait parler du comité de lecture. Donc le comité de lecture, est-ce que Nelly, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est?
Moi je suis encore assez nouvelle ici et c'est la deuxième année que je participe au comité de lecture qui fait partie de la médiathèque
et des correspondances
et des correspondances bien sûr et tout le monde peut y participer.
Voilà, alors ça se déroule le troisième mardi de chaque mois.
Oui.
Et c'est animé par Nathanaël.
Et par Sylvie. Et donc, en général, il y a une trentaine de lecteurs qui présentent chacun, s'ils veulent, un livre et qui en lisent un extrait.
Alors, ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que les gens qui participent dans la trentaine, il y en a qui ne lisent jamais. En fait, leur plaisir, c'est de venir écouter d'autres parler de leur découverte de lecture. Il y en a aussi qui viennent toute l'année en prévision des apéros, en se disant, je vais leur amener un bon petit plat, c'est ma façon de participer. Et on les revoit très régulièrement. Il y en a d'autres aussi qui en profitent pour amener leurs amis, leurs conjoints, leurs conjointes. Ce qui fait que le groupe des apéritifs est beaucoup plus étoffé au mois de septembre que dans le courant de l'année.
Ah oui, c'est vrai, parce qu'au mois de septembre, il y a beaucoup de personnes, les bénévoles, pour préparer les petits canapés, etc., qui font leur apparition. Alors,
les apéros littéraires, alors, comment ça se déroule?
Oui, comme Chantal le nomme, c'est un peu le marathon de la lecture qui commence au mois de juin quand les correspondants reçoivent la liste des auteurs. La liste des auteurs et... Pardon. Alors, la liste des auteurs et la quarantaine de livres qui sont choisis. Et il y a à peu près, non pas à peu près, mais il y a 8 livres qui sont attribués aux lecteurs du comité de lecture. Alors, donc tout l'été, on essaye de lire autant de livres que possible, et surtout les 8 livres qui sont attribués au comité de lecture pour être lus en public avec les auteurs. Donc, 15 jours avant... le festival, on se retrouve tous aux correspondances, au bureau des correspondances, avec un comédien qui vient d'Avignon et qui s'appelle Raphaël France Kuhlmann, qui est très sympathique et qui nous fait tous bien travailler. Alors, il y a les huit livres et chacun se propose pour lire un ou au maximum deux livres. Et donc, on fait la liste et il y a aussi les personnes qui ne veulent pas lire ou qui ne peuvent pas lire, qui se proposent à aider à l'apéritif proprement dit, quoi, et qui prépare les canapés et qui aide au bar, et les maris aussi y participent, et donc pour que tout se passe bien. Alors
et donc pour 15 jours avant on se retrouve pour se répartir les lectures, ça tu l'as dit. Et on se retrouve trois fois pour choisir les textes, parce que c'est pas évident. Il y a un quart d'heure de lecture par livre. Et il faut choisir, il faut choisir les meilleurs passages de façon à donner envie à nos auditeurs de lire ces livres.
Oui, alors ce qui se passe, c'est que chacun choisit plusieurs passages qu'on aime beaucoup. Et on commence à lire et on se retrouve avec trois quarts d'heure de lecture qu'il faut réduire à 15 minutes. Donc, il faut couper, il faut rajouter, et puis finalement, on se retrouve à 17 ou 18 minutes. Et on est content. Mais c'est beaucoup de travail parce que on a trois leçons, chacune qui dure 2 heures. Et on rentre à la maison, prépare les marque-pages, on lit, etc., pour être prêt à lire en public.
En fait, c'est ce travail qu'il y a à faire à la maison, ça permet de ne pas trébucher pendant qu'on lit. Ça permet que le texte qu'on aime bien, on le rende meilleur. Comme si on avait déjà sucé un peu chaque mot, pour qu'il s'écoule très, très lentement, mais très fluide. De notre façon de parler, et c'est ce qui fait en général que la lecture collective est réussie, c'est si on s'est bien entraîné déjà chacun chez soi.
Ah ben c'est sûr qu'il faut s'entraîner un peu à la maison, parce que de l'avoir lu une ou deux fois avec Raphaël, ça ne suffit pas, mais c'est Raphaël qui nous corrige et qui dit comment il faut pratiquement prononcer chaque mot et l'emphase à mettre sur chaque phrase. Mais au fond, je trouve que c'est passionnant de...
On redécouvre les textes en les lisant à haute voix. Et alors donc, ces apéros littéraires... il y a Françoise qui veut parler.
Oui, je voudrais dire qu'on retrouve bien sûr des textes et on découvre des auteurs. Mais moi, je suis aussi très intéressée par la découverte des personnes avec qui on partage ces lectures. Et je pense à toi, Sylvie, parce que je pense que nous avons toutes les deux vraiment fait connaissance grâce à la lecture que nous avons partagée du livre d'ailleurs qui s'appelait « Partage » de Gwenaëlle Aubry il y a 2 ans, qui était l'histoire de 2 jeunes filles, une israélienne et une palestinienne. Il n'y avait que 2 personnages dans le livre et nous avons lu ça toutes les deux. Moi, je te connaissais très peu à l'époque et je crois que la sympathie qui est née entre nous est beaucoup née de ce moment-là. Et il y a beaucoup d'autres personnes que j'ai vraiment découvertes dans le groupe du comité de lecture grâce à ça, qui n'est pas vraiment un événement littéraire par rapport à l'impact d'un festival dans une société et dans une ville, me semble quelque chose de très important.
Oui, tu as très bien résumé tout ça, François. Et donc, une fois qu'on a lu les textes devant le public, eh ben, il y a une rencontre entre les auteurs et le public, menée par Nathanaël et moi-même. Et je crois que c'est un exercice qui plaît beaucoup aux gens. Donc là, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Sinon, on va peut-être parler vraiment des livres.
Ben, je pense simplement qu'il faut ajouter que le dernier jour, comme on est quand même tous français, tout ça se termine à table, que nous apportons chacun beaucoup à boire et beaucoup à manger, que nous invitons au maximum les auteurs qui sont là à Manosque à venir se joindre à nous, et que la grande satisfaction de cette année, c'est que les auteurs qui n'étaient pas là ont été jaloux et qu'ils sont repartis en se disant qu'il ne faudrait plus jamais rater une occasion, et donc que l'année prochaine, nous ferons savoir cette invitation beaucoup plus tôt.
Maintenant, on propose d'attaquer, entre guillemets, les lectures qu'on a eu le plaisir de faire cette année. Avec Françoise, on vous propose un tout petit passage de Debout Payé de Gauze. On a eu le plaisir de bavarder avec lui après, de manger avec lui aussi, ce qui était un réel régal. Et je vais essayer d'abord de vous dire un peu d'où il vient. Armand Patrick Bacabrédé est tout mon nom à l'état civil, le nom qu'on m'a choisi. Gauze est un diminutif de Gozoro, déclinaison ancestrale de Baka, le nom que je me suis choisi. Je suis né le 22 mars 1971, un lundi matin mouillé des premières averses tropicales de la saison des pluies. L'événement s'est passé à l'hôpital central du plateau à Abidjan, aux alentours de 9 heures, l'heure des embouteillages dans la capitale. À l'université, les orienteurs m'ont jeté en CBG, un tronc commun, chimie, biologie et géologie, une espèce de classe prépa qui ne dit pas son nom. J'y ai été brillant les deux premières années, au point d'obtenir une bourse pour faire des études de médecine vétérinaire à Maison Alfort. Mais l'idée de soigner des chiens et des chats de vieilles blanches en manque d'affection m'a rebutée. À la grande horreur de mon entourage et de toute la fac, j'ai refusé de quitter Abidjan. On ne refuse pas de partir en France et en plus, tout frais d'études payés. Pour tout le monde, les sorciers m'avaient jeté un terrible sort. J'ai obtenu une inscription à Paris 7, Jussieu. En août 99, j'ai débarqué à Paris avec un visa touristique de 3 mois. Je suis donc rapidement devenu un étudiant sans papier, ce qui pour un fonctionnaire de la préfecture signifie un sans-papier, tout court. J'avais tellement parcouru toutes les arcanes de l'administration, épluché tellement de textes de loi, vu tellement d'associations de défense des sans-papiers, que lorsque la femme française avec laquelle je vivais est tombée enceinte, je suis passée du statut de sans-papier à celui de citoyen français en moins de 2 mois. Je suis fière d'avoir eu l'un des permis de séjour les plus courts de l'histoire. Je cite pêle-mêle tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Hotliner sur des programmes ou machines informatiques. Agent de sécurité pour concerts de musique électronique. Enquêteur pour la production d'un film dans les milieux sociaux ivoiriens de Paris. Scénariste et dialoguiste de « Après l'océan », un film d'Eliane Delatour. Reporter, photo et vidéo pour une bande d'altères mondialistes. Militant pour l'Internet libre en Afrique. Accompagnateur de sans-papiers à la préfecture de police. Consultant à l'Organisation internationale de la francophonie pour les scénarios et dossiers de financement de films. Babysitter. Photographe pour candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Vigile pour enseigne de parfumeur. Réalisateur de courts-métrages. Études sur l'art moderne et voyage pour l'écriture du film documentaire BDBM, Métamorphose d'un reliquaire. Jardinier pour Maison de l'Ouest parisien. Maître Jedi pour jeunes photographes ivoiriens. Photographe de mode, rédacteur en chef du journal économique News & Co.
Alors, dans toutes ces activités, tous ces métiers, petits métiers et moins petits métiers, certains qui ont probablement été là pour le côté utilitaire, Gauze s'est beaucoup penché sur la vie des vigiles et le roman qu'il a écrit qui s'appelle Debout payé et que nous avons lu est en fait l'histoire de plusieurs noirs qui sont à Paris et qui font ce travail de vigile dans des enseignes un peu prestigieuses, puisque l'une est le magasin Sephora des Champs-Élysées, l'autre est le magasin Camailleux qui est place de la République. Il y a un Camailleux ici à Manosque, tout le monde connaît cette enseigne. Et Debout Payé est le nom que les Noirs donnent entre eux à ce métier, où on est debout toute la journée, 24 heures sur 24, pour être payé. Et je trouve que la liste de toutes ces petits métiers ou pas petits métiers que Gauze a eu dans son parcours nous incite quand même à avoir un autre regard quand on rencontre un vigile grand et baraqué. C'est pas forcément quelqu'un qui est là pour cogner, c'est peut-être un étudiant en médecine ou un jeune avocat qui a besoin de travailler.
Tu peux même rajouter, quand tu dis qu'il travaille debout, dans un ennui profond en plus, 24 heures sur 24, Gauze explique que quand ils sont en pause dans la journée, ça veut dire que vite fait, ils vont remplacer un collègue dans un des magasins qui est un petit peu plus loin, ce qui leur permet de rajouter un tout petit peu d'argent sur leur fiche de paye, ce qui leur fait une deuxième fiche de paye, ou une troisième fiche de paye, bien sûr, et d'envoyer de l'argent au pays.
D'ailleurs, envoyer de l'argent au pays occupe une bonne partie du roman. Alors, c'est pas ce que je vais vous lire aujourd'hui, puisque nous avons choisi de lire le début du livre, dans lequel l'auteur donne un petit peu une présentation des personnes qui font ce métier de vigile. Ça s'appelle « Nouvelle recrue » et ça fait partie du prologue. La longue file d'hommes noirs qui montent dans les escaliers étroits ressemble à une cordée inédite à l'assaut du K2, le redoutable sommet de la chaîne himalayenne. L'ascension est rythmée par le seul bruit des pas sur les marches. Les escaliers sont raides, les genoux montent haut, 9 marches, un palier, plus 9 marches supplémentaires font un étage. Les pas sont feutrés par un épais tapis rouge déplié exactement au milieu d'une cage trop étroite pour laisser passer deux hommes côte à côte. La cordée s'étire avec les étages et la fatigue. On entend souffler de temps en temps. Au sixième étage, le premier appuie sur le gros bouton d'un interphone cyclope surmonté de l'objectif noir d'une caméra de surveillance. Le grand bureau où tout le monde se retrouve en sueur est un open space. Aucune cloison n'arrête le regard. Jusqu'à une cage de verre sur laquelle deux lettres marquent le territoire du mâle dominant les lieux, DG. Une baie vitrée offre gracieusement la vue sur les toits de Paris. Distribution de formulaires. À bout de bras, ici, on recrute des vigiles. Protect 75 vient d'obtenir de gros contrats de sécurité pour diverses enseignes commerciales de la région parisienne. Les besoins en main-d'œuvre sont immenses et urgents. Le bruit s'est très vite répandu dans la communauté africaine. Congolais, Ivoiriens, Maliens, Guinéens, Béninois, Sénégalais, etc. L'œil exercé identifie facilement les nationalités par le seul type vestimentaire. La combinaison polo jean des Ivoiriens. Le blouson en cuir noir trop grand des Maliens. La chemise rayée fourrée près du ventre, des Béninois et des Togolais. Les superbes mocassins toujours bien cirés des Camerounais. Les couleurs improbables des Congolais de Brazza. Le style outrancier des Congolais de Sanlé. Dans le doute, c'est l'oreille qui prend le relais. Car dans la bouche d'un Africain, les accents que prend la langue française sont des marqueurs d'origine aussi fiables qu'un chromosome 21 en trop pour identifier le mongolisme. Les Congolais modulent, les Camerounais chantonnent, les Sénégalais psalmodient, les Ivoiriens saccadent, les Béninois et les Togolais oscillent, les Maliens petits négrisent. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Le livre donc donne la parole successivement à plusieurs de ces Africains qui font ce travail. On perçoit les relations avec leur famille, leurs relations entre eux. Et moi, j'ai trouvé très intéressant dans le débat avec Gauze tout ce qu'il a dit sur la difficulté pour les Noirs de ne pas rester entre eux dans les grandes villes et particulièrement à Paris, et avec un regard sur la société qui était plein de remarques et de questions.
Ce qu'on peut y ajouter, c'est que l'idée des vigiles qu'on se fait n'est pas très positive, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces grands bonshommes noirs, habillés toujours de la même manière et qui sont situés dans le magasin pour faire peur, grosso modo, pour éviter les vols. Il se trouve qu'ils arrivent en France très souvent déjà fort diplômés. Et c'est leur parcours d'essai de vivre en Europe qui les amène à faire les boulots dont nous-mêmes ne voulons pas, alors qu'en fait, ils sont souvent beaucoup plus savants que nous.
Va nous présenter Nii Ayikwai Parks, notre quelque part, qui avait été reçue le même jour que Gauze, que nous ont présenté Chantal et Françoise.
Donc, notre quelque part, c'est un livre traduit de l'anglais par Sika Chakambi aux éditions Zulma 2014. C'est le premier roman de cet auteur ghanéen qui fut finaliste du Commonwealth Prize. Nii Ayikwai Parks vit actuellement entre la Grande-Bretagne, où il enseigne au pays de Galles, et Accra, au Ghana, son pays. C'était l'un des 8 auteurs ayant pris part aux apéros littéraires de notre comité de lecture. Il était même accompagné de la traductrice de son livre, qui lui servait aussi d'interprète. Mais il s'est très bien débrouillé en français pendant les interviews. Comme je lui en ai fait la remarque, il m'a dit qu'il avait passé quelques mois à Dijon, il y a 2 ans. Ce livre est un roman policier, mais atypique, car c'est une histoire bien africaine, pleine de charme, de légendes, de coutumes, qui crée une atmosphère irrésistible. C'est un vieux chasseur nommé Yao Poku qui nous raconte beaucoup d'histoires, fait des commentaires pleins d'ironie tout en buvant du vin de palme. Alors, ça commence par une jeune femme, la petite amie d'un ministre, de passage au village, qui poursuit un oiseau à tête bleue jusque dans une cage où elle découvre quelque chose d'horrible qui entraîne l'arrivée de la police criminelle d'Accra et ensuite celle d'un jeune médecin légiste nommé Kayo, récemment revenu de ses études en Angleterre. Je ne vais pas vous lire ce qu'on a lu pendant le festival, mais tout le début de ce roman qui n'introduit pas l'intrigue, mais l'atmosphère de cette œuvre. C'est donc le vieux chasseur qui parle. Les oiseaux n'ont jamais cessé de chanter. Si tu regardes bien, tu vas voir que quoi qu'il se passe, les oiseaux vont chanter leurs chansons. Au temps de mon grand-père, la forêt était dense, dense et beaucoup plus haute. Nous n'avions pas besoin d'aller loin pour tuer un phacochère. Ah, leur piste commençait aux abords du village et le goût de leur viande dans notre bouche était comme l'eau, tellement nous en mangions. Maintenant, ils se sont enfoncés loin, loin, les phacochères. Mais toutes les choses sont entre les grandes mains d'Oniam. Et seul Oniam, celui qui brille, c'est pourquoi les crottes des chèvres sont si belles à voir. On ne se plaint pas. Quand je pars en forêt, je vois que le monde est plein d'étonnement. Les oiseaux sont tout couleur, couleur, rouge, bleu de la mer, jaune. Certains comme les feuilles, d'autres blancs comme le blanc du coton nouveau. Est-ce qu'il y a une seule créature qu'on ne trouve pas là-bas? Le plus petit gibier que j'ai rapporté à la maison est l'adanko. Les ndanko ne sont pas difficiles à attraper. Même quand ils se cachent, on voit toujours leurs grandes oreilles dépassées. Si je les avais créées, j'aurais mis des yeux sur leurs oreilles en pointe pour les protéger. Mais alors, j'aurais eu trop de mal à les capturer et peut-être la faim serait en train de me consumer. Ah, Adanko, tu cours vite, mais j'ai beaucoup de pièges. Ainsi vit le chasseur. Wikwe Parkes aux éditions Zulma.
Claudine, dimanche, a fait une lecture du livre de Marie-Hélène Lafont, Joseph, et là, elle va nous le présenter.
Il sera difficile d'oublier Joseph, homme des champs et des vaches, dont Marie-Hélène Lafont raconte avec une extrême tendresse l'histoire banale et attachante. Cet ouvrier agricole dans une ferme du Cantal est peut-être le dernier héros d'une saga ancestrale. Mais c'est au présent que nous le voyons survivre dans un espace qui semble d'un autre temps. C'est le début de la critique du Canard enchaîné du journal d'hier. Ce livre est donc très très bien ressenti par le public. Joseph a toujours travaillé chez les autres. Il n'était pas chez lui. Il devait garder sa contenance, toujours. Il se finirait dans cette ferme. Pour la retraite, il irait dans une maison de rien où étaient les vieux comme lui. Alors je vous dis simplement des petites phrases prises par-ci par-là. Un patron comme celui-là allait bien pour se finir. C'était mieux que d'autres endroits où on vous regardait de travers. Il n'avait pas toujours eu le choix. Il avait dû certaines fois travailler dans des conditions qui lui tordaient le ventre. Mais Joseph connaît son métier. Joseph sait s'y prendre avec les vaches. Les bêtes ne sont pas des machines. On sent le chaud de leur corps et leurs yeux posés sur vous. Avec le chien Raymond aussi, il sait s'y prendre. Un chien comme celui-là, il faudrait qu'il ne meure pas. Jamais, il serait presque mieux qu'une personne. Mais la vie de Joseph n'est pas triste. Il regarde, il observe. La patronne arrosait le soir. juste quand le chaud du jour était tombé. Et en traversant la cour pour aller manger, Joseph ralentissait un peu pour attraper le parfum des géraniums qui restait suspendu dans l'air et aurait presque pu faire penser à un dessert sucré. Il avait eu comme un autre son histoire d'amour. Mais Joseph n'a pas fait maison. Les gens comme lui ne font pas maison. C'est un roman qui nous a énormément plu. C'est un héros de roman, si l'on peut dire, que l'on n'oublie pas. C'est vraiment un homme qu'on aurait plaisir à connaître, à rencontrer. Voilà, un très très beau roman, Joseph, de Marie-Hélène Lafon, chez Buchet-Chastel.
Maintenant, nous allons brièvement vous présenter tous les autres romans des auteurs que nous avons reçus. Alors, nous allons commencer par Simonetta Greggio, pour son livre « Les monstres », l'Italie 1978-2014.
« Les nouveaux monstres ».
Elle a raison, c'est le titre d'un film. Simonetta Greggio raconte dans ce livre l'Italie troublée des années 78 à nos jours à travers la quête de vérité d'une jeune journaliste.
C'est la suite de Dolce Vita qui nous entraînait dans l'effervescence italienne des années 60 et la décadence des années de plomb jusqu'en 1978, année de l'enlèvement d'Aldo Moro par les Brigades Rouges.
Les nouveaux monstres est un roman épistolaire. L'héroïne, Aria, est issue de la grande famille des Valfonda. Elle est journaliste d'investigation et mène deux quêtes, l'une sur ses origines, l'autre sur la mafia qui sévit au plus haut niveau.
Celui à qui elle écrit, c'est Saverio, son grand-oncle jésuite, qui lui confie les secrets de leur lignée ainsi que ceux du Vatican.
La trame romanesque est un prétexte à une dénonciation de la violence générée par la mafia et de l'accointance de celle-ci avec l'État.
Tous les faits relatés sont réels, et à la fin du livre, une cinquantaine de pages sont consacrées à des annexes sur les faits, les dates, les personnages, les films, les livres cités dans le roman.
C'est donc un roman à valeur documentaire que nous livre Simonetta Greggio, qui vit en France, et qui a donc pu éditer ce roman brûlant, sans conséquences pour sa sécurité.
Oui, elle nous a d'ailleurs dit qu'elle n'aurait pas pu le faire en Italie. Donc ça, c'était le livre de Simonetta Greggio, Les nouveaux monstres.
Nous allons vous présenter maintenant l'écrivain national de Serge Joncourt. Le narrateur arrive en résidence d'auteur dans une petite ville de province. Tout aurait pu se passer calmement, mais un fait divers va bouleverser la bonne organisation de sa résidence.
Un vieil homme a disparu et l'on soupçonne un jeune couple de marginaux de l'avoir tué. L'homme est en prison et sa compagne reste seule dans sa maison au milieu des bois, face à la suspicion de toute la petite ville.
Notre écrivain est subjugué par sa photo dans le journal. Il va se débrouiller pour la rencontrer, malgré les mises en garde des libraires et de l'hôtelière.
Ce roman sert de prétexte à Serge Joncourt pour nous raconter ses expériences de résidence d'auteur, les rencontres parfois mouvementées avec les lecteurs, ou plutôt les lectrices, la vie à l'hôtel, les réceptions avec les officiels, les petits fours. Certaines situations sont souvent comiques.
Il puise donc son inspiration littéraire dans les faits divers qui vraiment fascinent cet auteur. Serge Joncourt nous livre souvent un texte drôle. Il y a un petit passage assez désopilant avec lorsque notre auteur écrivain en résidence est à maille à partir avec la gendarmerie. Et son intrigue est proche d'un roman policier.
Donc c'était l'écrivain national de Serge Joncourt, paru chez Flammarion.
Pater, 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 pater,
Valérie Zenati est venue aussi nous voir. On la connaissait bien puisqu'elle est venue, on l'avait déjà reçue il y a quelques années pour Une bouteille dans la mer de Gaza. Son livre Jacob, dans ce livre, elle se plonge dans la mémoire familiale.
Elle nous a confié avoir été happée par la photo d'un oncle mort à l'âge de 20 ans pendant la libération de la France.
Le roman commence à Constantine en 1944. Jacob, jeune juif de 18 ans, vient d'avoir son bac. C'est un jeune homme cultivé et raffiné, à l'inverse des autres membres de sa famille qui vivent dans la pauvreté matérielle et affective.
Jacob est bientôt appelé pour combattre en France et le lecteur va le suivre dans sa traversée de la France en guerre, en cours de libération, en compagnie de ses camarades d'infortune, un musulman, un français de France, comme elle dit, et un autre juif. Tous les quatre forment une famille.
Jacob va faire pendant la guerre plusieurs belles rencontres de femmes qui vont être une lumière dans l'horreur de la guerre. On vous conseille ce roman, Jacob, de Valérie Zenati.
Joyce Ormand, Dans la peau de l'ours, édité chez Gallimard. Dans la peau de l'ours, Joyce Ormand raconte la vie d'un personnage mi-homme, mi-ours, à travers ses pérégrinations dans le monde de ménagerie en cirque et autres zoos.
Le pacte entre les hommes et les ours a été rompu par son père quand il a enlevé et violé la plus belle fille du village, donnant naissance à ce personnage hybride.
Les hommes ne verront lui que l'ours, tandis que les femmes pressentiront la délicatesse, l'humanité qui émane de cette presque ours.
Ce livre est un conte sur l'humanité et la bestialité.
On s'est vraiment régalé à lire ce livre. Il y a de très très belles pages de rencontres entre l'être qui n'est ni un ours ni un homme, qui a absolument pris au bout de quelque temps l'apparence d'un ours, mais qui au fond de lui n'en est pas un. Et Joyce Ormand, nous a vraiment été très chaleureuse. On l'avait déjà rencontrée il y a 2 ans, et là, elle a été vraiment très très contente de nous entendre lire ce livre. Quelqu'un avait trouvé un t-shirt avec un merveilleux portrait d'ours. Oh, elle a trouvé que c'était formidable. Et après, on lui a même offert un petit nounours en peluche. Elle avait les larmes aux yeux en nous disant qu'on ne lui en avait jamais offert.
Et ce petit nounours en peluche, en fait, c'était un joli petit tricot que Claudine lui avait confectionné exprès.
Et qu'elle portait, accroché à son chemisier lors de la lecture.
Et la personne qui portait, donc c'est Jean-Louis qui portait le t-shirt avec une très belle tête d'ours, c'était Claudine aussi qui l'avait entreperçu à Monoprix et Jean-Louis qui lisait et s'est empressé d'aller l'acheter. Eh bien, Joyce Ormand est repartie avec, car Jean-Louis s'est déshabillé, il avait un autre t-shirt et il lui a offert, et même dédicacé.
Voilà, c'était de très très bons moments. Et Joyce Ormand aurait vraiment voulu déjeuner avec nous. C'est ce que tu voulais dire?
Oui. Et puis, revenir un petit peu sur l'objectif des correspondances, que ce soit pour Joyce Ormand, que ce soit pour Valérie Zenati, ce sont deux auteurs qui avaient déjà été reçus dans le cadre du festival. Et le festival des correspondances de Manosque se donne pour objectif d'aider des premiers auteurs dans leur premier ou deuxième livre, mais surtout de les suivre pour les encourager dans la suite de leur écriture. Et que ce soit Valérie Zenati, que ce soit Joyce Ormand, on a eu le plaisir en plus de voir, on avait aimé leur premier livre, mais le deuxième on a adoré. C'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup fait plaisir.
Et pour corroborer ce que dit Chantal, tout à fait, Sylvain Prudhomme, par exemple, que nous avions eu le plaisir de recevoir pour Là-bas avait dit Bailly, donc au comité de lecture, nous l'avons reçu là pour son livre Les Grands,
Et là, on va pas trop en parler de son livre aujourd'hui, car Sylvain, et là on revient sur l'aide qui peut être apportée aux auteurs par les correspondances et par le service culturel de la DLVA, il va être en résidence à Manosque dans quelques temps et il sera même notre invité au comité de lecture de décembre. Et donc, on aura l'occasion de lui parler, sans doute de l'inviter, de l'entendre à cette radio. Et lui aussi, ce n'est que du plaisir et une rencontre humaine fantastique.
Alors, même si on ne veut pas trop parler de ce livre, on peut quand même vous dire que Les Grands, donc le roman de Sylvain Prudhomme, qui est paru chez Gallimard, est un grand roman dans lequel il relate l'histoire d'un groupe de musique de Guinée-Bissau des années 70 à nos jours, les Super Mama Jumbo. Dulce, la chanteuse du groupe, vient de mourir et Couteau, son ex-compagnon, erre dans Bissau. C'est l'occasion pour Sylvain Prudhomme de nous parler de ce pays avec la guérilla qu'il y avait eu pour la conquête, la reconquête du pays par les Guinéens, et de parler aussi de narcotrafic dans ce pays méconnu qu'est la Guinée-Bissau.
Donc le 16 décembre, nous recevrons Sylvain Prudhomme à notre comité et nous vous attendons donc nombreux.
Voilà, et puis bien sûr, puisqu'il y aura un rendez-vous le 20 novembre sur cette antenne, c'est qu'il y aura eu un comité de lecture le 18 novembre à 18h à la médiathèque où vous êtes tous les bienvenus.
Je voudrais signaler que... comme d'habitude, beaucoup de livres, enfin au moins plusieurs livres des correspondances sont enregistrés à la Bibliothèque Sonore, association des donneurs de voix. Ces livres, vous le savez, sont destinés aux personnes aveugles, malvoyantes ou qui sont dans l'impossibilité de lire. On leur prête gratuitement les livres. C'est situé sur la place de,
des
marchands à Manosque. Et le livre d'Hélène Lafont, Joseph, a été enregistré récemment, donc peut se trouver très facilement. Renseignez-vous. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Merci donc, à Emeline.
Donc nous vous avons présenté aujourd'hui donc Simonetta Greggio, Les Nouveaux Monstres, avec Sylvain Prudhomme, Les Grands. Le deuxième jour, nous avions reçu et donc nous avons présenté aujourd'hui Serge Joncourt, un écrivain national, et
Valérie Zenati pour Jacob Jacob. Le vendredi, nous avions reçu... Qui avons-nous reçu
non,
le vendredi ?
C'est le samedi. Nous avons reçu Gauze pour Debout Payer, que Françoise et Chantal nous ont présenté. Notre quelque part de Ni Aik Wai Parks, que Nelly nous a présenté. Le dimanche, nous avions reçu Marie-Hélène Lafant, de Joseph. C'est Claudine qui vous l'a présenté. Et Joy Sormand, L'Ours...
La peau de l'ours, voilà. On vous remercie, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir et merci Emeline.
Merci à toutes. À bientôt.